Place Info.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le 8:30 France Info sur France Info, la radio et le canal 27 de la TNT. Configuration un peu particulière ce matin puisqu'on va retrouver Jean-Jérôme Berthelus, chef du service politique de France Info et notre invité Gérard Collomb en direct de Lyon avant d'évoquer les municipales et l'agglomération lyonnaise avec Gérard Collomb. Une question d'actualité pour vous, monsieur Collomb. Troisième jour de trafic perturbé à la SNCF. Le Premier ministre Édouard Philippe dénonce pêle-mêle un détournement du droit de retrait, une grève sauvage à l'impact inacceptable sur les passagers. Quel est votre sentiment sur la question ?
Je crois évidemment que pour les usagers, cela crée beaucoup de problèmes. Il se trouve que nous avons un festival du film à Lyon et je peux vous dire que ces deux derniers jours, c'était la panique pour savoir qui pouvait partir, qui n'arrivait pas. Et donc je comprends que pour toutes celles et tous ceux qui devaient prendre le train ce week-end, dans notre région, on est en début de vacances, c'était extrêmement compliqué.
Alors, retour au municipal, Gérard Collomb, vous avez reçu le soutien de La République En Marche il y a quelques jours pour votre candidature à la présidence de la métropole. Ce soutien, vous le devez à quoi ? À votre notoriété ou à vos liens avec Emmanuel Macron ?
Mais il se trouve que nous recevions le président de la République lors d'une réunion des chefs d'État autour des problèmes sida, paludisme, tuberculose. Et donc j'ai demandé au président de la République de pouvoir le rencontrer un quart d'heure avant le début du repas dans mon bureau. Et je lui ai posé la question franchement, lui disant, écoute, moi je veux pas être au milieu d'une espèce de feuilleton qui va durer et qui va durer. Tu me dis, franchement, est-ce que tu veux que je sois candidat ou pas ? Et il m'a dit, oui, je veux que tu sois candidat. Et à partir de là, donc, le comité d'investiture, le lendemain ou surlendemain, a confirmé cette candidature. Et voilà, on est parti, quoi.
Et pourquoi, alors vous êtes parti effectivement, mais pourquoi être candidat à la présidence de la métropole et pas à la mairie de Lyon ? Aujourd'hui, c'est la métropole qui concentre à la fois les moyens, les pouvoirs.
Oui, bien sûr, on a construit avec cette métropole, je crois, une institution absolument fabuleuse. Vous voyez, c'était la réunion donc à la fois de la communauté urbaine de Lyon et puis du conseil général sur le territoire de l'agglomération. Et nous, notre problème aujourd'hui, c'est pas tellement de pouvoir se mesurer aux agglomérations françaises, mais aux grandes agglomérations européennes. Quand j'ai commencé à être maire ici, je disais un jour, nous serons dans le top 15 des grandes villes européennes. L'année dernière, nous avons été classés 10e. Et donc, tout ça, c'est de l'attractivité économique, c'est du développement, c'est de l'emploi. C'est, par exemple, pour le tourisme, nous avons été classés première ville de week-end. Donc voilà, c'est une ville qui a franchi une distance considérable grâce à ce que nous avons pu faire.
En même temps, votre candidature à la métropole, eh bien, suscite un petit peu la zizanie. Il y a eu des commentaires aigre-doux. Les jeunes macronistes, par exemple, ont parlé, eh bien, d'une candidature de l'ancien monde, une baronnie locale. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
C'était un jeune qui a parlé de cette manière. Il se trouve que hier, j'ai vu les jeunes avec Macron, à la fois responsables nationaux et puis responsables locaux, et que j'ai fait une réunion avec eux. Donc, eux ne partagent pas du tout cette façon de penser.
Alors, il y en a peut-être un.
On ne peut pas plaire à tout le monde.
Il y en a peut-être un, quand même, qui partage, en tout cas, ce point de vue. C'est David Kimmelfeld, le président sortant de la métropole, qui est à La République En Marche et qui va se présenter également à la présidence, à sa propre succession en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un combat fratricide, Gérard Collomb.
Oui, on rentre dans un combat que j'ai du mal d'ailleurs à comprendre parce que lorsque il y a 2 ans je suis parti au ministère de l'Intérieur, j'ai eu beaucoup de mal à faire élire David Kimmelfeld comme président. J'y ai consacré beaucoup de temps et donc je pensais que ça serait quelqu'un qui naturellement serait derrière moi pour cette campagne au niveau de la métropole. Bon, ce n'est pas le cas. Après, chacun prend les décisions qu'il veut.
Et donc ça veut dire que vous allez vous affronter, parce que lui a dit pas d'accord avant le premier tour, pas d'accord après le premier tour.
Bah écoutez, on verra, vous savez, faut jamais insulter l'avenir. Moi, des gens qui, par le passé, m'ont dit qu'ils ne feraient jamais ceci ou jamais cela, et que j'ai eu ensuite dans mes équipes, il y en a quelques-uns. Donc, on va attendre les choses de manière sereine.
Mais quand même, sereinement, effectivement, vous vous rappelez, en 2001, vous avez été élu à la mairie, sur fond de effectivement zizanie à droite, entre Millon, Mercier, vous avez en quelque sorte profité de cette désunion pour succéder à Raymond Barre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que votre désunion au sein de la majorité profite à la droite?
Oui, c'est vrai que, par exemple, le candidat de la droite au niveau de la métropole, Monsieur Buffet, peut effectivement à un moment donné profiter de cette désunion. D'autant plus que il faut pas croire qu'on est dans une situation ici qui est une situation idyllique. Beaucoup de communes de la périphérie de l'agglomération sont maintenant gérées par des maires de droite. Donc c'est vrai que cela demande attention. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte. J'ai essayé de ne pas envenimer les débats de manière à rendre toujours possible un accord.
On va poursuivre sur les municipales, juste après le rappel des titres, mais on va également évoquer ce que vous disiez quand vous êtes parti de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, la loi du plus fort dans certains quartiers.
Encore pas mal de questions, effectivement, à évoquer avec l'ancien ministre de l'Intérieur. Merci Jean-Jérôme Bertolus en duplex de Lyon avec Gérard Collomb qui est l'invité ce matin du 8:30 France Info jusqu'à 9h. Et donc, vous l'avez compris, encore pas mal de thématiques à évoquer avec notre invité du jour. 8h40, on refait un point sur l'info grâce à vous, Sois Igbourg.
Des trains annulés, supprimés, gare de Lyon à Paris, un train Ouigo sur trois en circulation, des lignes de RER quasi paralysées. Nouvelle journée très compliquée dans les transports, les cheminots maintiennent leur droit de retrait. Ils dénoncent une situation de blocage avec la direction. Boris Johnson confiant sur l'adoption de l'accord de Brexit avant le 31 octobre, malgré le camouflet au Parlement. Le Premier ministre britannique contre tout nouveau délai, c'est ce qu'il dit dans une lettre adressée à l'Union européenne. Couvre-feu total à Santiago, au Chili. Les manifestations violentes dégénèrent. Le président Sébastien Pinera a dû faire marche arrière et suspendre la hausse du prix des transports à l'origine du mouvement. Le 15 de France peut rêver. Coup d'envoi dans un peu plus d'une demi-heure, du match face au Pays de Galles pour une place en demi-finale du Mondial de rugby. Et puis du foot, aujourd'hui aussi, Marseille reçoit Strasbourg, Saint-Etienne se déplace à Bordeaux et Rennes à Monaco, entre autres. Hier, Toulouse a battu le LOSC 2-1. De son côté, Lyon piétine pour la première de son nouveau coach Rudy Garcia, un match nul 0-0 face à Dijon.
France Info. Et tout est plus
le
clair.
8:30 France Info du dimanche ce matin consacré entre autres municipales. C'est en duplex de Lyon ce matin. Notre invité Gérard Collomb est avec Jean-Jérôme Bertolus.
Gérard Collomb, pour que les choses soient claires, vous êtes candidat à la métropole, mais pas en même temps candidat à la mairie.
Et tout le monde a un peu de mal à comprendre la façon dont marche la métropole et puis la commune. Bien évidemment, vous êtes candidat à la fois à la métropole et sur la commune. Il y a deux listes, mais il n'y a personne qui sera candidat, enfin peut-être de manière marginale, mais qui ne sera candidat qu'à une seule institution. Vous êtes candidat aux deux. Après, vous devez choisir si vous êtes élu à la métropole ou bien si vous êtes maire de Lyon. C'est ça la véritable différence par rapport à ce qui se passait mais originellement.
Justement, donc je vous repose la question. Vous choisissez la métropole.
Ah oui, bien sûr. Moi, je choisirais la métropole.
Parce que effectivement, les Lyonnais, et c'est une première en France, les Lyonnais et 58 autres habitants des communes environnantes vont voter pour la première fois au suffrage direct pour les conseillers à la métropole. Et après ce premier tour des municipales, il y aura une élection au sein de la métropole. Si vous n'étiez pas élu président, vous ne vous rabattrez pas sur la mairie.
Et si vous voulez, on voit bien aujourd'hui que les métropoles, mais même les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, ont pris des pouvoirs extrêmement importants. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a souhaité qu'il y ait le suffrage universel, et pas le suffrage comme on avait jusqu'à présent à deux tours, si je puis dire, où on était d'abord élu conseiller municipal, voire maire, puis ensuite on venait donc à la communauté urbaine ou à la communauté d'agglomération. Oui, ça laisse le choix aux habitants de pouvoir élire directement leur président de la métropole.
Alors il faut que la métropole et la ville marchent main dans la main, à la fois au jour le jour et à la fois pour que effectivement, eh bien, l'élection entre guillemets se passe bien. Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui que Fouzia Bouzarda, qui est la vice-présidente MoDem de la métropole, dont effectivement vous êtes proche politiquement, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit candidate à la mairie de Lyon?
Vous voyez, c'est la question qui commence à se poser. Ce matin, j'entendais un autre nom, c'était mon adjoint au sport, Yann Cuchera. Vous savez, dans ses studios, Louis Pelaez, qui est aussi de cette génération, qui va nous succéder. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent prétendre à devenir maire de Lyon. C'est peut-être comme cela que va se faire le renouvellement. À la fois, si vous voulez, l'expérience pour ce qui est de la métropole de Lyon, et puis quelqu'un qui appartient à une génération nouvelle pour la ville
c'est
de Lyon.
Le cas c'est de Fouzia, peu, mais c'est le cas.
Mais c'est un peu tôt pour pouvoir le dire.
Et juste d'un mot encore, et après on va passer effectivement à un autre sujet. Votre adjoint, le premier adjoint de Lyon, Georges Kepenekian, est candidat. C'est un bon candidat.
Manifestement, c'est un bon candidat, mais si vous voulez, ce n'est pas le renouvellement. On doit avoir 18 mois d'écart. Donc, si c'est pour dire Colomb, il est trop vieux, mais on en choisit un qui est plus jeune de 18 mois, je vois pas bien l'intérêt. Donc, il y a sans doute d'autres raisons, mais on peut pas évoquer celui-là en tout cas.
Encore un petit mot sur les municipales. Comment vous expliquez que La République En Marche et tant de candidatures dissidentes sur le territoire? Donc effectivement, David Kimmenfeld va être un candidat dissident, Villani à Paris et d'autres un petit peu partout en France. Comment vous l'expliquez? Finalement, La République En Marche, elle comprend pas les territoires, comme l'a dit Agnès Brunera, qui est députée effectivement locale.
Si vous voulez, c'est un parti extrêmement jeune hein, qui a été constitué plutôt par des individualités qui ont été choisies à un moment donné. Moi, je me souviens de cette période. On a eu finalement 2 mois et demi pour choisir les candidats. Des candidats qui savent d'ailleurs que, puisqu'on veut diminuer le nombre de parlementaires, quelques-uns d'entre eux ne seront plus demain parlementaires. Et on va dire qu'il y a un peu de flottement dans les rangs.
Allez, toute autre question maintenant, tout autre thème, effectivement, Gérard Collomb. Je vais rappeler les mots que vous avez dit lorsque vous avez quitté la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Vous avez évoqué la loi du plus fort dans certains quartiers, la loi des narcotrafiquants, mais également des islamistes radicaux. Vous avez dit, on vit côte à côte, demain, face à face. Est-ce que, Gérard Collomb, le communautarisme menace aujourd'hui la République?
Alors, je séparerai vos deux questions. D'abord, il y a le problème, évidemment, des trafics de drogue. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jérôme Fourquet sur l'archipel français.
Oui.
Il dit que la drogue en France, c'est le deuxième pourvoyeur d'emploi. Donc, évidemment, ça pose un problème tout à fait fondamental. Et on voit bien que dans un certain nombre de quartiers, de cités, les dealers font aujourd'hui la loi. Donc ça, c'est une première question.
C'est des quartiers désertés par la République.
C'est des quartiers où, en tout cas, petit à petit, si vous voulez, s'est installée effectivement la loi du plus fort, avec une espèce de hiérarchie. Tout en bas, vous avez les petits qui font le guet, mais qui déjà peuvent gagner des sommes considérables.
Mais dans cette hiérarchie, il n'y a pas la police. La police n'est plus là.
Ben, la police a du mal, effectivement, à contrôler. Elle vient, mais elle fait des opérations coup de poing. Mais en général, si vous voulez, sauf enquête suivie, parce qu'il n'y a que cela qui est véritablement efficace. Vous arrêtez le petit dealer, lui, vous allez le condamner à rien, il va ressortir au bout de, même le lendemain, donc et il sera remplacé si jamais il est en prison. Donc cela ne change rien, il faut attaquer la tête, les réseaux, démanteler véritablement des gangs. On sait, par exemple, que le H vient plutôt du sud, mais... l'héroïne vient plutôt du nord, donc c'est ces réseaux-là qu'il faut attaquer à la tête.
Mais l'autre question, effectivement, c'est on vit côte à côte, demain, face à face, oui. Vous avez évoqué les islamistes radicaux, je vous repose la question.
Sur ce deuxième point, évidemment, on voit bien qu'il y a une fracture dans nos sociétés, avec des quartiers qui sont riches, dynamiques, qui vont de l'avant, et puis d'autres quartiers qui se paupérisent, quelquefois se ghettoisent, et donc ça ne marche pas quand vous avez des quartiers où chacun vit d'aide plutôt que de son travail, où finalement vous avez quelquefois 10, 15, 20 nationalités, et puis vous avez plus d'Européens dans le quartier, ça ne peut pas marcher comme cela. Pour cela que dans ma ville, j'ai toujours essayé de faire de la mixité sociale, de faire de cette ville une ville de la rencontre. Vous voyez, dans les quartiers où il y avait 80% de logements sociaux, moi j'ai fait de la rénovation urbaine, mais pas à dose homéopathique, et j'ai ramené les couches moyennes, et puis au contraire, dans les quartiers comme la Confluence, qui étaient des quartiers, on va dire, un peu up to date, j'ai ramené 25 à 30% de logements sociaux, parce qu'il faut faire ça, et ça donne leur chance aux jeunes qui arrivent de l'immigration.
Aujourd'hui, Bruno Retailleau, dans le JDD, qui est le président du groupe LR au Sénat, souligne qu'il faut interdire les listes communautaires. Vous partagez ce point de vue au municipal, vous partagez ce point de vue ?
Mais en tout cas, il faut essayer de dissuader qu'il y ait empêché. C'est difficile, pas par la loi, mais il faut dissuader.
Mais il faudrait pas une nouvelle loi, justement.
Il faut dissuader.
La neutralité ne peut pas
être.
C'est
bien difficile parce que si vous dites ceux-là, je les interdis pour telle raison, les autres pour telle raison, quand même le champ des libertés se réduit. Non, je pense ce qu'il faut, c'est essayer de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas ces listes communautaires.
Bien, très bien. On va poursuivre effectivement sur ce sujet, ou plutôt sur un autre sujet qui est la question du voile, notamment pour les accompagnatrices scolaires. Ce sera juste après le rappel des titres.
Okay. Merci beaucoup Jean-Jérôme Berthelus. Gérard Collomb, on vous retrouve tout de suite. On retrouve effectivement d'abord à 9h10, Soisigbourg pour le tour de l'info.
Troisième jour de perturbation à la SNCF, un train Ouigo sur trois en circulation, des annulations en gare de Lyon et le RER très perturbé. La direction met en demeure les salariés qui exercent leur droit de retrait de reprendre le travail. Boris Johnson contraint par le Parlement britannique de demander un report du divorce. Le Premier ministre a dû envoyer une lettre à l'Union européenne pour être en conformité avec la loi mais assure être opposé à tout délai supplémentaire. Les soldats américains qui se retirent de Syrie attendus en Irak pour lutter contre les combattants du groupe État islamique. Sur place, un soldat turc est mort dans une attaque des forces kurdes, malgré la trêve négociée entre les deux parties par les États-Unis. La pression retombe en Catalogne au lendemain du sixième jour de mobilisation contre la condamnation de plusieurs dirigeants séparatistes. Avant-hier, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont fait 182 blessés. Et puis plus qu'une vingtaine de minutes à patienter avant le début du quart de finale. Finale France-Galles au Mondial de rugby au Japon. Les Bleus ne partent pas favoris.
France Info. Et tout est plus clair.
Merci beaucoup, Soisig. On retrouve pour le dernier tiers de cet entretien et le 8:30 France Info, le maire de Lyon, Gérard Collomb, en duplex de Lyon avec Jean-Jérôme Berthelus.
Gérard Collomb, le port du voile pour les mères accompagnatrices lors des sorties scolaires. C'est légal, ça a été rappelé d'ailleurs par le Premier ministre à l'Assemblée. Mais est-ce souhaitable, pour reprendre le mot de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation ?
Je crois que ce qu'il faut bien que l'on voit, c'est que d'abord... ce voile peut se porter de manière extrêmement différente entre le voile que vont porter par exemple un certain nombre de mamies maghrébines et puis la burqa. Il y a quand même une différence fondamentale, et si vous regardez les différentes pratiques de l'islam à travers le monde, vous apercevez que les femmes portent des voiles de manière totalement différente, et que vous sentez moins agressé quand vous êtes par exemple avec des voiles chamarrés dans tel ou tel pays d'Afrique que lorsque vous vous trouvez en Syrie ou en Irak, où là ça paraît d'une dureté absolument terrible.
Oui, mais en France, donc, à Lyon ou à Vénissieux par exemple, quand il y a une sortie scolaire, effectivement,
alors, si vous voulez,
ce qui est...
Si est évidemment dommageable et significatif, c'est quand à un moment donné vous n'avez plus que les femmes avec les voiles. Ça veut dire que à ce moment-là, il y a une imposition, il y a une loi qui est faite, qui est donnée par la cité pour imposer le voile aux femmes, aux jeunes filles. Et ça, c'est le véritable problème. Mais ça, ça se combat justement par la culture, par l'éducation. Ça se combat en disant que l'islam, c'est une religion diverse. Regardez, par exemple, les affrontements aujourd'hui principaux, ils sont entre les chiites et les sunnites. Et donc, on voit bien que les problèmes sont beaucoup plus complexes qu'on ne veut le dire.
D'un mot, pas de nouvelle loi pour interdire le voile lors de ces sorties scolaires.
Moi, je pense que c'est plus par la pratique, par la connaissance, que par, si vous voulez, l'imposition de nouvelles lois, d'ailleurs, qu'on ne ferait appliquer qu'avec difficulté. Parce qu'aujourd'hui, en France, la tentation, c'est de faire toujours de nouvelles lois, de les empiler, puis après, dans leur application, c'est plus difficile.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison quand il pousse la majorité à s'emparer de la question d'immigration? Il dit, il faut regarder cette question en face.
Oui, bien sûr. Moi, lorsque j'avais posé ces questions, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais eu quelquefois des réactions un peu virulentes. Mais on voit bien que les problèmes existent. Et donc, quand on voit, par exemple, à Paris, sur le périphérique, 300 tentes donc étalées, on se dit quand même qu'il y a un problème. Et donc, qu'il faut essayer de le résoudre. Donc, le président de la République, oui, il a raison lorsqu'il évoque ces difficultés.
Et en même temps, il y a eu toute une séquence, trois interventions du chef de l'État sur l'immigration, et après, effectivement, eh bien, cette tuerie à la préfecture de police le 3 octobre dernier, ce débat sur le voile. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit halte au feu, pas d'amalgame. Il y aurait même un risque de guerre civile si on mélange tout, laïcité, immigration, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu pompier pyromane dans cette affaire?
Bah, si vous voulez, ils disent ce que je viens d'essayer de vous dire, c'est-à-dire que je vous ai dit dans vos questions, il y en a plusieurs. Essayons de ne pas les mélanger, de répondre à chacune. Les gens qui effectivement veulent commettre des attentats en France, il y en a, de manière nombreuse, mais c'est pas l'immense majorité des musulmans qui veulent vivre dans ce pays tranquillement, paisiblement, avec d'ailleurs des élites qui sont dégagées et sur lesquelles on a le tort de ne pas s'appuyer. Vous voyez, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, j'avais demandé au préfet qu'ils organisent avec celles et ceux qui composent les élites musulmanes un certain nombre de réunions de manière à leur dire essayez justement de donner une ligne, montrer que tout cela est compatible.
Mais justement, on voit que la majorité est un peu sans dessous dessus, on voit qu'il y a un débat dans le pays. Est-ce que le président de la République doit aujourd'hui publiquement s'exprimer sur la laïcité, tracer en quelque sorte les lignes de force?
Oui, mais d'une certaine manière, la laïcité telle que définie par Aristide Briand, c'est-à-dire la liberté.
Oui, mais peut-être
de
pour le réaffirmer, le
oui,
président doit s'exprimer. Mais
le président, vous savez, in fine, hein, on voit bien que il y a toujours des sons divers qui s'expriment, et celui qui donne le la, in fine,
donc
c'est toujours le président
donc
de la République.
Donc il doit s'exprimer.
Donc effectivement qu'il doit s'exprimer.
D'un mot, on est à mi-mandat, pratiquement. Est-ce que vous espérez que le président de la République, Emmanuel Macron, se représente en 2022?
Mais je pense qu'il le fera, parce que sans doute n'aura-t-il pas terminé sa tâche. On voit bien que le problème des retraites ne se réglera pas en deux jours. Et donc c'est quelque chose qui va s'étaler sur quelques années. Et donc il faut qu'il aille au bout de cette réforme, par exemple.
Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui. Il y pense déjà, vous?
Bah, il pense non, il est dans l'action immédiate, dans les perspectives qui sont celles de notre monde, un monde quand même extrêmement lui aussi divisé. Jamais, je crois, on a vécu une période où il y a tant de sujets de conflit dans le monde. Donc, lorsque vous gérez ça, vous n'êtes pas tout de suite, tiens, je vais me représenter pour le prochain mandat.
Une dernière question avant la bataille hein, qui s'annonce assez musclée des municipales, on l'a évoqué, vous êtes un maire heureux, c'est le 10e anniversaire aujourd'hui du Festival Lumière à Lyon, ça a l'air de bien se passer.
Oui, bien sûr, c'est ce qui fait d'ailleurs le bonheur d'être maire, c'est que vous voyez concrètement ce que vous avez fait pour votre ville, que ce soit en matière de construction ou bien d'événements, là vous voyez du bonheur dans les yeux des Lyonnais, c'est formidable.
Merci beaucoup, Gérard Collomb.
Merci Gérard Collomb, merci Jean-Jérôme Berthelus et merci à Claire Vuillot, Chantal Nouvelot, Morgane Fougerie et Georges Thau d'avoir permis ce duplex ce matin depuis le studio de France Info à Lyon. Bonne journée à tous.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.